Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Nathalie Kosciusko-Morizet.
Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL ce matin. Hier soir, Édouard Philippe a maintenu sa confiance à Richard Ferrand. On imagine bien que le président de la République, Emmanuel Macron, est sur la même longueur d'onde. C'est la première erreur d'Emmanuel Macron de le soutenir ou il a raison?
Je crois que l'erreur... Elle est autour de l'idée qu'il pourrait ne pas y avoir d'enquête. Il y a une accumulation de faits troublants. Alors, chacun a droit à la présomption d'innocence, bien sûr. Mais je pense qu'aucun Français ne comprendrait, dans ce contexte, qu'il n'y ait pas d'enquête. On est à un moment où le gouvernement nous annonce une loi de moralisation de la vie politique. Et dans le même moment, il laisse s'installer un climat de défiance. Mais la loi, elle ne suffit pas. Il faut un climat de confiance. Et Richard Ferrand, c'est un homme clé du dispositif d'Emmanuel Macron. C'est quelqu'un qui a participé, par exemple, au premier rang, aux investitures pour le parti En Marche. Mais je trouve qu'il devrait lui-même réclamer une enquête.
Oui, parce que vous dites cela, mais qu'est-ce qu'on peut faire? La justice elle-même, le parquet national financier, s'est déclaré incompétent. Il a renvoyé au parquet local, à Brest, qui lui-même n'a pas jugé nécessaire d'ouvrir une enquête. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Bon, si vous voulez, Richard Ferrand lui-même explique qu'il faut circuler, qu'il n'y a rien à voir. Moi, je crois qu'il devrait,
solliciter, la justice, ouvrir
mais
une enquête,
d'une manière ou d'une autre, trouver un moyen de lever le doute, d'éradiquer le doute. C'est le doute qui est insupportable dans ce contexte. Je le dis, au moment où on parle de présenter une loi sur la moralisation de la vie politique, il faut lever le doute.
Oui, mais Nathalie Kosciusko-Morizet, vous avez soutenu François Fillon qui était mis en examen par la justice. Vous l'avez soutenu jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça règle, le fait que la justice...
J'ai soutenu François Fillon dans un esprit de loyauté, comme on s'était tous engagés à le faire dans la primaire. Et je vous fais remarquer que François Fillon a lui-même sollicité d'être entendu par les juges.
Après que la justice est allée au-devant.
Il a systématiquement, contrairement à Marine Le Pen, par exemple, qui a refusé d'aller chez les juges, il a systématiquement accepté, devancé, sollicité, demandé même que soient accélérées ces convocations. C'est pas du tout la même attitude. Hein.
Vous ne réclamez pas la démission de Richard Ferrand? Contrairement à certains dans votre camp. Alors, effectivement, comme je viens de dire que vous n'aviez pas... Vous étiez resté fidèle à François Fillon, qui lui-même ne s'est pas démis dans cette affaire.
Je vous ai parlé de la présomption d'innocence. Je pense que la présomption d'innocence, elle existe. Mais ce qui est terrible, en l'occurrence, c'est le doute. Encore une fois, dans un contexte dans lequel on nous parle, mais tous les jours, de la loi de moralisation de la vie politique comme étant le premier acte majeur du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais je crois que l'intéressé lui-même devrait se saisir en quelque sorte
mais
de son
lever
propre
le doute,
cas.
Ce serait pas plus simple de quitter le gouvernement et de demander ensuite éventuellement à la justice si elle se saisit de faire le clair, c'est pas plus simple
ou de le faire en parallèle, mais en tout cas d'aller au-devant de ce sujet plutôt que d'essayer de le fuir.
Le Front National met un signe égal entre l'affaire Fillon et l'affaire Ferrand. Y a une grosse différence, c'est qu'il n'y a pas d'argent public dans le cas Ferrand. C'est pourtant comparable pour vous?
Écoutez, c'est le jeu du Front National que d'essayer d'utiliser les affaires pour pourrir la vie politique française. On les a vus même récemment chercher à leur tour à retourner le ventilateur et à lancer sur d'autres. Moi, je ne vais pas commenter ça.
Dans l'affaire des eurodéputés, Édouard Philippe, hier soir, laissait entendre que l'exemplarité n'est pas atteinte parce que finalement, les faits sont anciens. On exige l'exemplarité absolue aujourd'hui. Hier, c'était hier. Ça se défend, ça?
Non, parce que le gouvernement, c'est aujourd'hui. Et la loi de moralisation de la vie politique, c'est aujourd'hui. Et ceux qui la portent, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ceux qui sont au gouvernement. Donc l'exemplarité, comme disait l'autre, c'est pour maintenant.
Et le sondage Kantar-Fraisse-Weinpohn qu'on révèle aujourd'hui sur RTL avec LCI et Le Figaro montre que La République En Marche sera en capacité d'avoir 300 députés, une large majorité absolue. Est-ce que vous pensez que d'ici le 11 et le 18 juin, le dossier Ferrand peut gâcher le tableau? Est-ce que les Français peuvent
mon temps, si vous voulez, à la sortie des métros, au coin des écoles, à faire des réunions d'appartements, à discuter...
Dans votre circonscription parisienne.
À discuter avec les Parisiens.
On vous en parle de cette affaire?
Bien sûr qu'on en parle.
Vraiment?
On peut pas d'un côté avoir un gouvernement qui parle toute la journée de moralisation de la loi politique et en même temps, d'ailleurs vous voyez bien, c'est présent sur tous les médias.
Vous êtes dans une situation très inconfortable dans cette circonscription parisienne dont vous parlez, alors que sur le papier, elle était imperdable pour la droite, comme on dit. C'est la deuxième circonscription, sauf erreur. En Marche a mis un candidat contre vous, Gilles Legendre, et Les Républicains, votre parti n'a pas désavoué un dissident, Jean-Pierre Lecoq, qui est maire du 6e. Et en plus, il y a Henri Guénaud qui s'est invité à la fête. Vous pouvez perdre, vous êtes mal parti.
Écoutez, toutes mes campagnes ont été difficiles. Donc, je ne suis pas vraiment surprise.
C'était pas prévu.
Oui, mais toutes
vous n'avez pas prévu d'avoir deux adversaires de droite,
réponds,
les Républicains.
Vous me dites que c'est impérdable, il n'y a pas de situation impérdable. Et toutes mes campagnes ont été difficiles. Si vous me demandez si je suis surprise que la vieille droite, qui aime à rester enfermée à Paris, dans ses territoires protégés, aille chercher à me déstabiliser sur ma circonscription, je vous dirais même non. Je vous dirais même non.
Et vous n'êtes pas surprise que votre parti n'ait pas exclu le dissident ?
Mais Élisabeth Martichou, on dit qu'on l'écarte. Quand on veut tuer quelqu'un, il y a des commanditaires et il y a des hommes de main. Aujourd'hui, tout le monde connaît les hommes de main. C'est ceux qui sont candidats pour faire perdre. Mais les commanditaires, moi je les connais aussi.
Ce sont vos amis du mouvement auquel vous appartenez.
C'est ceux qui, à la tête de la droite parisienne, ont pour seul talent, depuis des années, de préserver leur situation. Et pour le reste, d'enchaîner les défaites collectives. Ça fait des années qu'ils veulent accrocher mon scalp à leur tableau de chasse. Ça fait des années qu'ils souffrent finalement d'être dirigés par une femme moderne et peut-être même par une femme tout court. Et puis, dans cette histoire...
Vous parlez de la droite parisienne.
Oui. Dans cette histoire, ils ont trouvé des partenaires. Ils ont trouvé des partenaires du côté d'En Marche. Et là aussi, il y a des commanditaires. Et là aussi, il y a un homme de main.
Alors, l'homme de main, on le connaît. Une alliance objective entre En Marche et la République.
Mais bien sûr. Et les commanditaires, on les connaît aussi. C'est Richard Ferrand, Benjamin Griveaux, qui veut s'occuper. Ben, on voit bien ce qui se passe. Enfin, je veux dire, si vous le voyez pas, mais vous voyez très bien parce que vous êtes une fine observatrice de la vie politique. Et pour ceux qui le verraient pas, je le décrypte. Ceux-là s'inscrivent aujourd'hui dans une logique de parti, dans un sectarisme de parti, en contradiction avec la volonté affichée par Emmanuel Macron. On a une espèce de conjuration des sectarismes aujourd'hui dans la deuxième circonscription de Paris.
Alors le sectarisme d'En Marche est de ne pas vous avoir épargné un adversaire, et le sectarisme de la droite parisienne, c'est de rester entre elles, et donc vous êtes l'otage de ce vieux monde.
Concernant En Marche, je ne suis pas l'otage. Moi, je me bats.
Vous êtes la victime.
Je ne suis pas l'otage, je suis la cible. La victime, attendez un peu. On verra ce que disent les Parisiens. Je suis la cible. Comme disait sur votre antenne l'autre jour, de manière extrêmement haineuse, votre polémiste Éric Zemmour. Je suis la cible. Et je vais un petit peu plus loin. Beaucoup de Parisiens me disent, mais on ne comprend pas pourquoi En Marche a mis un candidat contre vous, puisque finalement, vous êtes une des premières à avoir dit à droite, on a perdu 5 ans avec Hollande. Il ne faut pas qu'on perde 5 ans à nouveau, donnons à Emmanuel Macron sa chance, ce qui, moi, je crois, ne veut pas dire donner un chèque en blanc, ne veut pas dire une Assemblée nationale monocolore, ça ne veut pas dire donner un blanc-seing, mais donnons-lui sa chance, soyons constructifs, vous êtes une des premières à avoir dit ça, on ne comprend pas pourquoi ils ont mis un candidat contre vous. Eh bien, je vais vous dire un truc, moi, je crois que c'est parce que En Marche, c'est un jeune parti, mais qui a déjà bien vieilli, et qui, ayant bien vieilli, est rentré très vite dans une logique sectaire. Et Richard Ferrand, dont on parlait tout à l'heure, a joué un rôle important là-dessus. Il est finalement un des auteurs de cette démarche sectaire, et c'est pas complètement par hasard. C'est quelqu'un qui vient depuis longtemps du Parti Socialiste, c'est quelqu'un qui s'y est jamais déclaré vraiment rebelle. Une conjuration des sectaires, d'accord. Et à Paris, cette conjuration a deux objectifs: d'une part, m'éliminer de la course pour la mairie de Paris. En Marche voudrait en quelque sorte la monopoliser, et les barons parisiens qui sont confortablement installés dans leur baronnie n'ont pas tellement envie qu'un des leurs puisse gagner la ville. Et puis il y a autre chose, c'est m'éliminer aussi de l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'Assemblée nationale, on n'aime pas tellement les paroles libres, on n'aime pas tellement les paroles indépendantes.
Mais vous permettez, je finis juste une seconde.
Les Parisiens, je crois, aiment la parole libre.
Voilà.
Et ils me le disent. Ils aiment les paroles indépendantes. Ils savent que ça a de la valeur.
Mais on est un peu perdu quand même, Nathalie Kosciusko-Morizet. Parce que vous nous expliquez, vous faites la démonstration qu'effectivement vous êtes la victime d'une conjuration.
Non, mais pas la victime, je vous le redis, ça c'est vous qui voudriez absolument, et encore une fois sur votre antenne, il y en a qui le braillent régulièrement le matin, qui voudraient que je sois la victime. Je ne suis pas la victime.
Vous n'êtes pas la Elisabeth Martichoux, vous n'êtes pas le lapin ébloui par les phares, comme l'a dit Eric Zemmour la semaine dernière. Laissez-moi terminer juste. On est un petit peu perdu parce que vous êtes distingué à la primaire de la droite avec un positionnement, c'est vrai, original, alternatif. Vous avez fait une bonne campagne et vous avez eu un résultat tout à fait honorable. Puis vous êtes allé rejoindre Alain Juppé le temps d'une semaine. Et puis vous avez soutenu François Fillon jusqu'au bout, malgré les affaires, malgré un programme très droitier. Et ensuite, vous avez signé, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, un appel, une main tendue à Emmanuel Macron. Oui. Vous pouvez comprendre que finalement, les électeurs face à vous se disent « Mais elle est où ? Elle est où la cohérence ?»
Mais Elisabeth Martichoux, les électeurs, ils comprennent très bien. La cohérence, c'est que moi...
La cohérence de Bruno Le Maire, c'est d'avoir quitté François Fillon et d'avoir rejoint Macron.
La cohérence de Bruno Le Maire, c'est d'avoir trahi tout le monde, et d'abord lui-même, à toutes les étapes, Elisabeth Martichoux. Tout le monde, toutes ses convictions, la cohérence de Bruno Le Maire, c'est d'avoir annoncé pendant la primaire qu'il soutiendrait personne et au soir du premier tour, quand tout le monde savait que François Fillon allait gagner, d'avoir couru chez lui, puis après de l'avoir trahi en race campagne et d'avoir couru chez l'autre, et il fera ça à chaque fois.
La cohérence de François Baroin, c'est d'avoir soutenu François Fillon comme vous et de ne pas avoir signé l'appel
de François Baroin. Et François Baroin, récemment encore, et d'ailleurs c'est une bonne chose sur le Nini, a changé ligne. Moi, Elisabeth Martichoux, je ne change pas de ligne, ni sur le Nini, contre lequel je me bats depuis 5 ans, ni que son positionnement politique. Je combat pour incarner une droite moderne, une droite ouverte, une droite de progrès, une droite alliée au centre. J'ai représenté cette ligne politique pendant la primaire. Au soir du premier tour, alors qu'on savait que ce serait très difficile pour lui, et contrairement à tous les autres, je suis allée soutenir Alain Juppé parce que je ne voulais pas le laisser seul, parce que c'était cohérent avec ma ligne politique. Et au soir du deuxième tour, comme on s'y était tous engagés, parce que c'est la loyauté. J'ai soutenu François Fillon dans des conditions extrêmement difficiles. Et vous pensez bien que c'était pas simple. Et aujourd'hui, je vous dis, avec les mêmes convictions qui sont constantes à travers le temps, que la France ne peut pas se permettre, après avoir perdu 5 ans avec François Hollande, de perdre à nouveau 5 ans. Je souhaite qu'on donne sa chance à Emmanuel Macron. Pas pour lui, pas pour les beaux yeux d'Emmanuel Macron. Mais parce que, mais bien sûr, mais parce que c'est la chance de la France. Je ne veux pas qu'on perde encore 5 ans. Donc je souhaite qu'on lui donne sa chance, c'est-à-dire pas un chèque en blanc.
Donc ça justifie effectivement cette position.
Constructif mais exigeant.
Je reviens sur la consigne de François Baroin la semaine dernière, désistement pour éviter l'élection d'un candidat FN. Ça a toujours été votre position. Bernard Accoyer, hier soir, sur RTL au micro de Marc-Olivier Fogiel, a dit non, il faudra que ça se règle au cas par cas.
Écoutez,
sur cette question aussi essentielle, il reste des fractures considérable dans votre parti. C'est tenable. Mais est-ce que le parti peut encore, dans ce paysage, rester tel qu'il est ?
Je ne veux pas, sur ce sujet, bouder mon plaisir. Il y a eu une évolution hier de François Baroin. Pour moi, ça représente... Pas de tous encore, mais pour moi, ça représente 5 ans de combat. C'est 5 ans d'un combat qui m'ont valu...
François Baroin qui n'a jamais été complaisant à l'égard du Front National.
Oui, mais
jamais.
Qui a, sur ce sujet, à d'autres moments, un petit peu évolué. C'est 5 ans d'un combat qui m'ont valu mon éviction de la direction des Républicains, qui m'ont valu des détestations, une hostilité tenace qui participe aujourd'hui des dissidences...
Pourquoi vous restez dans ce parti des Républicains dont vous dites qu'il veut vous éjecter, en tout cas en ce qui concerne la droite parisienne, et dont vous dites qu'il est vraiment assez éloigné de vous. Pourquoi vous restez chez les Républicains ?
Elisabeth Martichoux, c'est pas parce qu'il y en a qui essayent de le prendre en main, de le faire évoluer, de le détourner, moi je le crois, de sa vocation, qu'il faut le déserter. C'est le contraire. Moi je me bats pour incarner une droite moderne. Cette droite moderne, elle a existé, elle existe, elle existera toujours, et je ne la laisse pas à ceux qui voudraient absolument conjuguer la politique au temps du passé. Attendez, je finis quand même sur le Nini. Il a fallu, je le disais, beaucoup de détestation. Ça me vaut aujourd'hui toutes ces difficultés, toutes ces manœuvres. Mais finalement, j'ai gagné. Et je suis satisfaite que cette position que j'ai défendue parfois de façon très minoritaire au parti, elle soit en passe de devenir majoritaire. On enterre le Nini, et ben pour moi, ce sera sans fleurs ni couronne.
Merci Nathalie Cossu. Comment risquer d'avoir été ce matin dans le studio d'RTL.
Sur Richard Ferrand, il est urgent de lever le doute, vient de nous dire que Nathalie Kosciusko-Morizet, dans un contexte où l'on nous parle tous les jours de la loi sur la moralisation de la vie politique, l'exemplarité, c'est maintenant. Et puis vous venez d'évoquer la conjuration des sectarismes dans votre circonscription. Moi, je dois donner les autres candidats de cette deuxième circonscription de Paris.
Alors vous allez avoir du boulot parce qu'ils sont... On est 24.
Je sais. J'en cite 4. Attendez, c'est comme ça que ça marche, 24. Bien sûr. Gilles Legendre pour La République En Marche, Henri Guénaud pour les divers droites comme Jean-Pierre Lecoq et Marine Rosset pour le Parti Socialiste. Le reste de la liste est à retrouver sur le site rtl.fr comme l'intégralité de cette interview. Enfin, on a compris que vous ne partiez pas en vacances avec Éric Zemmour, que l'on retrouve nous à 8h20.